Invité de la deuxième heure de ces matins du samedi, le député européen écologiste vert ALEU, Alliance Libre Européenne, Yannick Jadot, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Beaucoup de sujets écologiques cette semaine, à commencer peut-être par le dernier rapport de l'ONU qui fait état d'un réchauffement climatique exceptionnel depuis 3 ans. On en parlait en regardant par la fenêtre, vous et moi, le ciel n'est pas très lumineux, hein, en tous les cas sur Paris, depuis quelques jours, même depuis quelques semaines. Il se trouve que nous avons vécu les années les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète, et là, ça dépasse largement le cas de notre capitale française. Ça sert encore à quelque chose d'être écologique dans ce contexte-là? Est-ce que vous vous dites de temps en temps, mais vous êtes découragé, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites plus que jamais, il faut se battre encore?
Plus que jamais, il faut se battre, mais c'est surtout un sentiment de frustration parce qu'à la fois, on a toute la science pour nous dire l'état de dégradation de la planète. On a, vous savez, il y a quelques années, quand on parlait du réchauffement climatique, on parlait des générations futures. La réalité, c'est que ce futur nous a rattrapés. Il est très présent, il nous impacte terriblement. Et le sentiment de frustration vient du fait qu'on a toutes les solutions, finalement. Elles existent dans l'économie, elles existent dans la société. Jamais les énergies renouvelables ont été aussi peu chères. Jamais beaucoup moins chères que aujourd'hui le pétrole, même que le charbon, que l'énergie nucléaire. Que on sait faire des programmes d'isolation de nos logements et en plus on économise de l'argent. On sait faire une agriculture qui participe pas du dérèglement climatique, mais au contraire refroidit la planète. On a tout ce qu'il faut pour réussir. On a des citoyens qui sont préoccupés, qui agissent ou qui attendent qu'on leur donne les moyens d'agir. Et donc la frustration vient du fait que le vieux monde, celui de l'agriculture intensive et des pesticides, celui du pétrole et du charbon qui dirige les États-Unis, celui du nucléaire chez nous, il est là parce qu'il sent qu'il va mourir. Il met le présent en tenaille de manière extrêmement violente parce que ce sont des intérêts extraordinaires. Le pétrole, ce sont des milliers de milliards de dollars. Donc il y a des intérêts qui sont là, qu'ils voient qu'ils vont perdre la main sur notre société, sur notre économie, parce qu'on va décentraliser. Parce que dans les quartiers aujourd'hui, on peut installer du photovoltaïque, on peut installer de la géothermie, parce qu'on peut, on a envie d'acheter directement nos produits alimentaires aux paysans. Et donc, ils voient bien qu'ils sont en train de perdre la main, donc ils se défendent avec une violence, alors qu'on pourrait aller tellement, tellement, tellement plus vite. On parlait de la géopolitique un peu à travers le journal. Franchement, c'est beaucoup plus sympa de dépendre de la mer, du vent, du soleil que de Poutine ou des pétromonarchies du Golfe.
Oui, mais c'est la réalité du monde, Yannick
c'est
Jadot.
La réalité
et
du monde.
C'est d'où votre frustration, on l'entend. Mais en même temps, c'est effectivement la réalité du monde. Cela fait effectivement un an que Donald Trump est à la tête de la première puissance du monde, qu'il passe son temps à nier le fait scientifique et le réchauffement climatique. D'où ma question. Je vous repose. À quoi bon aujourd'hui continuer de se battre, sachant que ce qui nous arrive sur la figure et ce qui nous est déjà arrivé, ce qui commence de nous arriver sur la figure, dépasse de très très loin tous les enjeux, toutes les petites batailles, même si elles sont très importantes. Et d'ailleurs, on va y venir dans un instant.
Je suis pas d'accord avec vous au sens où les enjeux sont globaux, donc c'est très difficile de gérer en commun, en coopération à l'échelle internationale, des défis globaux alors qu'il y a des conflits, il y a des tensions. Il y a des guerres, évidemment, c'est pas facile, mais on n'a pas le choix, parce qu'on est à 1 degré déjà de réchauffement climatique, on voit les dégâts extraordinaires.
Un même, je crois.
Si on continue comme ça, on va finir à 3, 4 ou 5, donc ça sera un monde absolument invivable, donc on a une responsabilité de se battre. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que si on a envie de mener les combats, on va réussir. Et c'est pas simplement, ça, il suffit pas de renvoyer la responsabilité à Trump. L'Europe aujourd'hui ne fait pas assez. L'Europe n'est pas sur le chemin de l'accord de Paris. On se bat, nous, au Parlement européen. On vient de définir cette semaine des objectifs en matière d'énergie renouvelable, en matière d'efficacité, en donnant du pouvoir aux collectivités locales, aux communautés locales, aux coopératives pour s'emparer de ce sujet de la transition énergétique. Et donc, le Parlement nous donne cette capacité, mais les États résistent. La France résiste du fait de son nucléaire, la Pologne résiste du fait de son charbon, la Grande-Bretagne résiste aussi du fait de son nucléaire, l'Allemagne du fait de son charbon. Et donc, Il faut que la société aujourd'hui arrive à faire basculer les États. Les États sont en retard sur la société. Et si moi je suis toujours aussi convaincu qu'il faut être écologiste et qu'il faut d'ailleurs un mouvement de l'écologie politique, c'est pour essayer d'être le lien entre cette société qui avance et des États qui traînent la patte aujourd'hui sur tous ces sujets-là.
Et quand ce n'est pas des États qui traînent la patte sur ces sujets, c'est même au sein des institutions européennes que vous avez des petites batailles à mener.
Qui sont des énormes batailles.
Bien entendu, comme par exemple cette bataille dont vous avez remporté, disons, la première manche avec l'interdiction de la pêche électrique, c'était cette semaine. Bataille que vous avez menée, tambour battant, on va continuer dans les métaphores un peu guerrières avec vous, Yannick Jadot, contre la Commission européenne, contre les lobbies également. Comment s'est effectué ce travail intense au Parlement européen pour remporter cette petite victoire qui est une énorme victoire?
Qui est une énorme victoire pour l'environnement et pour les pêcheurs artisans qui essayent de survivre sur nos côtes. C'est d'abord un travail extraordinaire d'une association qui s'appelle Bloom, qui avait déjà fait une énorme campagne sur la pêche en eau profonde. Donc c'est un travail d'alerte, c'est un travail de recherche scientifique, c'est un travail de lobby. Et puis surtout, dans le cas d'espèce, sur la pêche électrique, puisque l'idée de cette pêche électrique, c'est d'électrocuter massivement nos fonds marins pour que tous nos poissons soient estourbis et que on puisse les ramasser avec des chaluts, laissant très peu de vie derrière. Eh ben, ça a été une coalition des organisations de la société civile, des pêcheurs artisans britanniques, français et d'ailleurs, des scientifiques, de la grande distribution qui a fait des annonces en annonçant qu'ils ne vendraient pas le poisson issu de la pêche électrique, des grands chefs cuisiniers français qui ont dit ce poisson qui nous arrive, il est absolument, on n'arrive pas à le travailler tellement il est en mauvais état. Et puis, on a réussi à convaincre parlementaire par parlementaire, jour après jour, minute après minute, et on a eu une belle majorité.
Inattendu d'ailleurs.
Inattendu parce que ça s'est fait en
2-3 mois. Signe peut-être que les mentalités bougent au niveau européen.
2-3 mois parce que finalement quand il y a cette alliance entre les associations, les pêcheurs ici, parfois les paysans ou les PME de l'autre côté, les scientifiques, eh ben les écologistes gagnent. Et ça vous épuise physiquement, mais ça vous donne une énergie extraordinaire. Des fois, on gagne quand on arrive à se mobiliser. On arrive à gagner même contre des lobbies très puissants, même sur une commission qui, pour le coup, avait menti.
Yannick Jadot, vous dites que cette technique de pêche, la pêche électrique, est destructrice pour la biodiversité. Mais vos détracteurs utilisent un argument exactement contraire, disant que c'est une technique qui est moins destructrice pour le milieu marin que les chaluts classiques qui permettent en plus, grâce à cette technique, ça permettrait en plus d'économiser pas mal de carburant. Pourquoi ça n'est pas entendable, cet argument-là?
Parce qu'il est faux. Parce qu'il est tout simplement faux. Pourquoi ils utilisent moins de carburant? C'est effectivement l'argument écologique qu'ils utilisent en permanence. Parce qu'en fait, avec leur technologie, ils ramassent tellement tout qu'ils pêchent 4 fois plus qu'avec la pêche avant la pêche électrique. Donc ils ramassent tellement tout, et y compris beaucoup de choses qui ne sont pas ciblées, parce que la pêche électrique, c'est essentiellement la sole et la plie. Ils ramassent tellement de choses qu'en fait, ils ont moins besoin de temps de sortie en mer. Donc c'est tellement performant au sens le plus négatif du terme, c'est tellement prédateur qu'effectivement ça économise du carburant. Mais tous les pêcheurs artisans qui essayent derrière de passer pour ramasser quelques sols, ils disent « on est face à des cimetières ». Est-ce que c'est ça dont on a envie? Est-ce que c'est pire que le chalutage à perche dont vous parliez? C'est la peste et le choléra. C'est pas parce que on doit combattre la peste qu'il faut autoriser le choléra. Alors oui, il faut se battre pour nos pêcheurs artisans. Ils sont en train de crever du fait de la pêche industrielle. Cette pêche industrielle, non seulement elle vide nos océans, mais elle vide nos territoires côtiers de ces artisans pêcheurs. Et c'est un combat commun. Et quand, moi j'ai des pêcheurs qui me disent, y compris c'est un sujet politique, comme les paysans, bah des fois sur le terrain, on a l'impression qu'il y a que le Front National qui a de l'empathie pour nous. Il n'y a que le Front National qui nous a pas abandonnés et qui nous écoute. Mais quand on vient au Parlement, on voit que c'est pas le Front National qui nous défend. Ce sont les écologistes. Pour qu'on existe encore, pour que nos petits métiers soient reconnus, pour que tout ce qui rend vivant nos territoires soit maintenu. Et franchement, avoir des océans vivants, avoir des pêcheurs, des territoires côtiers où c'est pas simplement des touristes ou des retraités, avoir du bon poisson dans nos assiettes, il n'y a pas mieux que ce triangle magique.
Yannick Jadot, autre sujet qui a nécessairement attiré votre attention et votre intérêt cette semaine, évidemment la décision gouvernementale d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Dans le Parisien, Nicolas, aujourd'hui en France, il y a deux jours, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, dit que ce n'est une victoire pour personne. Il a parlé de la moins mauvaise des solutions. Il a surtout salué la sagesse d'une décision qui met fin à un conflit, à une impasse de plus de 50 ans. Comment réagissez-vous ?
J'étais le soir même en train de fêter cette victoire, parce que je considère que c'est une victoire, avec les résistants à Notre-Dame-des-Landes, à la Vacherie, qui est un lieu emblématique de cette résistance. Il y avait les Fresneaux, parce que la Vacherie, ce lieu emblématique, c'est de la ferme des Fresneaux. Ils sont là depuis 6 générations. Il y avait, je parle des leaders, hein, je parle pas de tout le mouvement, il y avait Julien Durand, on se remémorait Michel Tarrin, qui avait été celui qui avait largement mené la grève de la faim en 2012, et qui n'a pas vu, qui est parti avant la fin de ce combat. C'est une magnifique victoire. Là aussi, de résistance, d'expertise citoyenne, parce que pendant longtemps, ce sont ces résistances et cette mobilisation des militants associatifs, des familles, des écologistes, des agriculteurs.
Mais vous n'êtes pas du tout sensible à l'argument du déni de démocratie qui du est tout. Porté aujourd'hui par un certain nombre de personnalités politiques, notamment la maire PS de Nantes, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui
vrai.
Rappelle que la consultation des électeurs des communes de Loire-Atlantique s'était soldée par un oui à 55%.
Je comprends leur frustration. C'est vrai que quand Jean-Marc Ayrault a commencé
en
politique...
C'est plus qu'une frustration, là.
Non, quand Jean-Marc Ayrault a commencé en politique, il y a 40 ans, il avait déjà sur sa liste, sa to-do list, des choses à faire, faire l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il quitte la vie politique, ça n'est toujours pas fait, alors qu'il était Premier ministre. Je comprends mal la maire de Nantes, dont l'électorat social, écolo, a largement rejeté Notre-Dame-des-Landes, qui n'était pas née quand ce projet a commencé.
Vous répondez par des arguments politiciens,
non, mais ce que
Jadot,
je veux dire,
vous détournez
non,
la question.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi...
C'est une vraie question, quand même.
Ça fait 50 ans. Oui, la consultation, mais vous savez, moi... Sous le précédent gouvernement, il y avait le Comité national de transition écologique. C'était l'instance installée par le gouvernement où il y a tous les acteurs de la société, les régions, les villes, les départements, le MEDEF, les syndicats, les parlementaires de gauche, de droite, les associations. Dans ce comité, avec des pros et des anti Notre-Dame-des-Landes, à l'unanimité, nous avions rejeté la consultation de Manuel Valls parce que tout le monde voyait bien que c'était une approche totalement biaisée de la démocratie, que Manuel Valls et François Hollande instrumentalisaient la démocratie à des fins de soutenir absolument le projet Notre-Dame-des-Landes. Alors c'est insupportable pour tous ceux qui se sont déplacés. Insupportable pour tous ceux qui se sont déplacés, mais quand on triche avec la démocratie, ça revient toujours en boomerang. Moi, ce que je vois, c'est que enfin, il y a eu un processus de médiation exemplaire installé par ce gouvernement, que ce processus a enfin fait ce que les opposants au projet Notre-Dame-des-Landes demandaient depuis 15 ans, qu'on étudie notre Nantes Atlantique, l'actuel aéroport. On ne peut pas être dans un monde où on jette les aéroports comme des Kleenex pour les reconstruire ailleurs. Donc, ils ont eu cette intelligence-là et ce gouvernement, avec son président, a eu l'intelligence enfin de trancher et de trancher de manière responsable en jouant l'apaisement sur toute la région. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
Allez, restez avec nous. Il est 8h30 sur France Culture. Tout de suite, c'est la revue de la semaine.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Caroline.
Alors dans la presse cette semaine, bien sûr, un anniversaire qui n'a échappé à personne. C'est aujourd'hui même d'ailleurs le premier anniversaire de la présidence Donald Trump.
Et dans son édito, Le Figaro ce matin nous invite à dépasser, je cite, le trémoussement médiatique pour juger l'an 1 du trumpisme. On peut s'en réjouir ou bien le déplorer, mais le grand perturbateur a bousculé les choses, note le journal. Il s'attaque à la bureaucratie, baisse les impôts. Bref, Trump fait ou tente de faire ce qu'il a dit. Dans Courrier International, on lira plusieurs témoignages de ceux qui vivent la présidence Trump de l'intérieur. L'écrivain et journaliste égyptien Omar El Akkad, par exemple, qui vit aux États-Unis, il laisse éclater sa colère contre Trump, bien sûr, mais surtout contre les démocrates et autres forces progressistes du pays. Il fustige leur manque de discernement. Pour eux, Trump ne serait qu'une aberration passagère, un abcès sur le corps républicain. Il pense qu'une destitution du président permettrait un dénouement rapide et radical. Or, dénonce le journaliste, cette position occulte une réalité embarrassante. S'il devait être destitué, son vice-président Mike Pence appliquerait de toute façon une politique radicalement conservatrice, anti-avortement, anti-LGBT, anti-immigration. En réalité, Trump entrave par ses bouffonneries une politique que son parti appliquerait avec une résolution sans faille. Le magazine L'Obs, de son côté, se demande si les institutions américaines résisteront à Trump. Jusque-là, tout va bien, commence l'article. L'économie tourne à plein régime, la bourse se porte comme un charme, aucune guerre, même pas commerciale. On lit pourtant dans cet article que les démocraties aussi peuvent mourir. Dans le cas de Trump, point de coup d'État, rien de militaire ni de très organisé. C'est plutôt un mélange de désintérêt, d'incompétence et de rapacité, analyse L'Obs. L'écrivain Paul Auster, de son côté, dans la revue America, se dit beaucoup moins confiant quant à la résistance des institutions américaines. L'écrivain américain exprime clairement son inquiétude face à celui qu'il appelle numéro 45, refusant de prononcer son nom. Santé, éducation, environnement, le gouvernement de numéro 45 travaille à démanteler le système en place, dénonce-t-il. Je n'ose pas imaginer à quoi ressemblera l'Amérique dans 3 ans.
Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on se préoccupe de l'état de santé de la démocratie, en Europe aussi.
Et on pouvait lire cette semaine sur le site d'Alternatives économiques un entretien en longueur avec Jürgen Habermas. Le célèbre philosophe et sociologue allemand y expose la manière dont il faudrait, selon lui, traiter avec les nombreux partis populistes européens. Il faut les ignorer, dit-il. C'est la meilleure manière de leur couper l'herbe sous le pied. En France, en Allemagne, en Autriche, l'erreur, selon Habermas, a été d'adopter le terrain de bataille défini par l'extrême droite, celui du « nous » contre le système. Et peu importe qu'on ait choisi de les assimiler ou bien de les confronter, nous les avons rendus plus forts en les prenant au sérieux et en les légitimant, explique-t-il. Face à la tentation du repli sur l'État-nation, Habermas continue de défendre l'idée d'une Europe plus intégrée, quitte à distinguer, propose-t-il, 2 entités. D'un côté, un noyau dur, une union politique entre les pays de la zone euro. De l'autre, une périphérie, les États membres hésitants, mais qui pourraient rejoindre le noyau dur à tout moment. Habermas dit qu'il faut croire en la capacité des citoyens à apprendre plutôt que de se retrancher derrière le fatalisme et le renoncement.
Et dernier sujet, alors qu'en France, on débattait cette semaine de bioéthique, vous nous rapportez qu'au Japon, on peut louer un fiancé, une amie, un parent de manière ponctuelle ou régulière.
Et c'est Yushi Ishii qui nous explique le principe dans une longue interview accordée au journal The Atlantic, traduit et publié par Courrier International. Il est le patron de Family Romance, une entreprise qui dispose de plus de 800 comédiens professionnels. Lui-même joue plusieurs rôles, notamment celui d'un père pour une jeune fille dont le vrai est parti. C'est la mère qui a fait appel à ses services. Ils se voient régulièrement, vont manger ensemble ou faire du shopping. Cela va faire 8 ans maintenant et la fille ne sait pas que ce père est en réalité un comédien. C'est un travail, se défend Yushi Ishii. La mère paye 20 000 yens, soit 150 euros, pour 4 heures, plus les frais. Tant que ma cliente ne lui dit pas la vérité, explique-t-il, je devrais continuer, je serai son père quand elle se mariera, puis je deviendrai le grand-père de ses enfants. Offrir une réalité plus idéale, quitte à s'enfoncer dans le mensonge, c'est finalement ce que propose cette entreprise, ce qui en dit long, selon le journal, sur l'état de la société nippone, ses tabous et son atomisation. Le monde est injuste, dit Yushi Ishii, et si mon agence existe, c'est à cause de cette injustice.
Une réaction, Jeannick Jadot ?
C'est totalement dingue. Enfin, c'est totalement dingue de faire face aux défis de la vie par le mensonge. Enfin, je veux dire, où est-ce que ça peut mener ? On parlait de Trump, on parlait des questions de démocratie, on parle du mensonge de la vie. On a l'impression de se retrouver dans un bouquin de Brecht où en fait, voilà, tout est factif. Je parlais tout à l'heure, oui, effectivement, de post-démocratie. C'est-à-dire qu'il y a l'apparence des institutions, on vote, il y a une assemblée nationale, il y a des gens qui travaillent, mais en fait, plus personne ne croit que ça va changer la réalité. Tout le monde pense que c'est que du renoncement, que c'est un jeu, une grande télé-réalité, et que c'est absolument dramatique. C'est absolument dramatique.
Il y a des gens comme vous, Yannick Jadot, qui y croyaient encore, vous nous l'avez bien expliqué.
Mais regardez, aux États-Unis, on parlait Trump, le type qui a animé de la télé-réalité. Vous avez aujourd'hui en face Madame Winter, qui est une femme remarquable. Madame Auffray.
Ça, c'est parce qu'il s'est un peu l'hiver partout.
Non, qui est une femme absolument remarquable, mais qui est aussi une femme de la télé. Enfin, vous voyez, ça raconte aussi la société où finalement, si on n'est pas passé par la télé, si on n'est pas dans le jeu médiatique, on ne peut plus prétendre à la défense de l'intérêt général. Vous voyez, on est passé dans une sorte de monde de la marchandisation permanente, de la médiatisation permanente, d'une sorte de mousse permanente, de la communication permanente, où on a l'impression que finalement, le fond n'a plus vraiment d'importance. J'écoutais ce que vous disiez aussi sur Habermas. Il dit faut pas s'occuper de l'extrême droite. Alors, je suis d'accord.
Il dit pas faut pas s'occuper des gens, il dit faut les ignorer.
Il faut les ignorer.
Nous les avons rendus plus forts en les prenant au sérieux et en les légitimant.
Ignorer le symptôme, c'est aussi ignorer la maladie. Je veux dire, pourquoi il y a des extrêmes droites? Parce qu'il y a des gens qui sont socialement abandonnés. Parce que la mondialisation que porte un certain nombre de forces politiques et de forces économiques, qui nous fait perdre beaucoup de repères, qui transfère notre souveraineté démocratique vers des firmes multinationales, qui on a l'impression qu'on a perdu le contrôle de nos vies. Ah ben, au bout d'un moment, ça génère quoi? Ça va générer une belle société ouverte mondiale. Mais quand on vous met en concurrence avec un salarié du bout du monde ou un salarié voisin, quand on met aujourd'hui les territoires en concurrence du point de vue fiscal ou du point de vue de la localisation des entreprises, quand on met nos choix de société en concurrence à travers les accords de libre-échange, TAFTA, CETA et tout ça, mais les gens, ils construisent eux-mêmes le « nous contre eux ». Ils construisent la défiance, ils construisent la colère. Et l'extrême droite et tous les populismes ramassent ça. Et tous les communautaristes ramassent ça. Donc il faut des politiques économiques, des politiques sociales, des politiques culturelles, des politiques écologiques qui redonnent du pouvoir aux citoyens, qui refont de nouveau les gens, des citoyennes et des citoyens, des actrices et des acteurs de leur vie. Et c'est vrai que quand on parle de paysannerie, quand on parle de circuits courts en agriculture, eh ben vous maîtrisez votre alimentation et vous savez à qui vous avez acheté. Quand on parle d'énergie renouvelable, vous maîtrisez un besoin essentiel de votre vie. Et tout ça, quand vous avez des emplois locaux, quand vous avez de la vie économique et sociale, eh ben vous avez des services publics, eh bien vous avez de la culture et vous avez de la démocratie.
Yannick Jadot, la montée de l'extrême droite n'a rien à voir avec la question migratoire, l'absence de politique migratoire en Europe, les difficultés d'Angela Merkel, on le voit bien aujourd'hui, à trouver une solution pérenne intérieurement, dans son pays, je veux dire, à Chope sur un point qui touche aussi bien l'Allemagne que la France et d'ailleurs toute l'Europe, c'est cette question de l'asile, de la politique migratoire. Cette semaine même, Emmanuel Macron s'est rendu à Calais, il a fustigé les associations qui l'empêchent de faire son travail, a-t-il dit. Vive débat en France sur l'humanisme ou la fermeté. On a vu une tribune des soutiens de la première heure à Emmanuel Macron collective, parlant de du paradoxe et du hiatus même entre la politique aujourd'hui en matière migratoire et l'humanisme qu'il prône. Le projet de loi est en préparation, on le sait, il devrait être présenté au Conseil des ministres en février. Les associations dénoncent un durcissement des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. De tout ça, il n'est pas question pour vous?
Bien sûr que si. Bien sûr que si, il en est question. Quand on est perturbé dans son identité, quand on est perturbé dans ses relations sociales, quand les communautés locales, au sens très positif de nos liens, semblent s'affaisser, semblent s'effriter, qu'il n'y a plus de service public, et ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, vous savez, on va faire un truc super. On va se mettre ensemble parce qu'on se ressemble et on va détester tous les autres. Et quand, en plus, vous avez des politiques publiques, des choix politiques qui ont construit autour de la question des réfugiés, notamment ce que j'appelle la désorganisation choisie. En Allemagne, Il y a eu 1 million de réfugiés. L'extrême droite est à quoi? 12-13%. En France, on a refusé les réfugiés, globalement. L'extrême droite était au second tour. Donc, c'est pas la question du nombre qui compte. C'est la question du discours qu'on construit et des politiques quand même. Quand l'image de ces réfugiés en France, ce sont les tentes, les camps, à la porte de la chapelle ou sur le périphérique ou ailleurs. Évidemment, quand les gens reçoivent en permanence ces images-là, ils se disent « mais c'est le bordel absolu si on accueille des réfugiés ». Si au contraire, on arrivait à organiser ça plus sérieusement, et quand on parle de milliers de personnes, ça n'est pas la fin de l'État français. On est plus de 65 millions, on a des moyens d'accueillir convenablement des gens qui survivent. Quand on va dans les villages où les personnes ont décidé d'accueillir, il n'y a pas de bazar. Les gens, ils sont contents. Donc, je pense que c'est aussi des choix politiques d'avoir un discours de vérité aux citoyennes et aux citoyens, leur dire ces gens-là sont des survivants, on va pas construire des politiques qui les rejettent en Libye, qui les rejettent à l'extérieur de l'Union européenne pour pas les voir, ils sont des survivants.
Mais d'autres vous diraient, c'est votre vérité, ça n'est pas la vérité, et nous en avons une autre. Vous savez comment ça marche aujourd'hui?
La vérité d'une famille syrienne qui a subi des bombardements chimiques et qui est arrivée en Europe, s'il n'y a pas plusieurs vérités, il y a une seule vérité. En Syrie, l'effondrement de cette zone, l'Irak, la Syrie, on n'est pas totalement irresponsable, nous, l'Occident. Il y a quand même la Grande-Bretagne, les États-Unis.
Pardon, je ne parlais pas de ce fait-là, qui est
la
indéniable.
Libye,
je parlais
on n'est pas irresponsable.
De la difficulté d'accueillir ici, et quand vous dites, quand les villages accueillent des gens, tout se passe très très bien, il n'y a pas de problème.
Le plus souvent,
voilà,
c'est vrai.
Pour certains d'entre eux, non, et certains diront, ben non, ça ne se passe pas si bien. Mais c'est aussi ce qu'on entend comme discours,
Yannick Jadot. Moi, ce que j'aimerais, c'est, et ça a été fait notamment par l'OFPRA, l'office en charge de l'asile, c'est que quand il y a des familles qui arrivent dans un village, il y ait la rencontre qui soit organisée avec les populations qui vont accueillir ou qui vont être dans le voisinage, et que ces réfugiés, qui sont souvent des survivants, racontent leur périple. Ben, je peux vous assurer que ça change du tout au tout. Il n'y a pas ce fantasme véhiculé, y compris par certains écrivains, par certains responsables politiques, du grand remplacement, de l'invasion. Non, il y a juste des destins qui sont parfois absolument dramatiques, mais avec des personnes qui ont une énergie vitale. Parce que quand vous avez survécu pendant des mois et des mois, c'est pas pour venir toucher la couverture maladie universelle. C'est parce que vous avez cet appétit de la vie aussi, pour survivre, qui fait que ce que vous allez apporter dans la société va être magnifique. Je trouve qu'on parle pas assez en France, par exemple, des parcours d'intégration qui sont parfois de magnifiques histoires. Des gens qui sont arrivés dans des conditions terribles, qui ont eu des vies terribles, et puis d'un seul coup, ils sont dans des entreprises, ils sont dans des associations, ils sont sur des territoires, et ils sont heureux sur ces territoires, et les gens qui sont autour d'eux sont heureux de cette arrivée parce qu'il y a une nouvelle énergie qui est arrivée. Donc c'est aussi un choix politique. Quand vous avez une police qui déchire les tentes, qui vole les duvets, vous croyez que ça peut bien se passer? Ça peut pas bien se passer. Quand la politique européenne soutenue par Macron, c'est de laisser les réfugiés dans le désert libyen, sous contrôle des bandes organisées. Mais après, on peut faire le show sur l'esclavage et d'accueillir 50 ou 60 personnes qui ont été victimes d'esclavagisme en Libye, parce qu'il y a une caméra qui était là-bas. Vous pensez que les réfugiés dans le désert libyen, ça se passe bien pour eux? Ils sont accueillis dans des Club Med avec des piscines? C'est l'abomination. Donc, il y a une réalité qui est pas simple. La question des migrations, la question des réfugiés, c'est jamais simple. Oui, c'est complexe, mais l'affronter avec courage, ça n'est pas se laisser porter par le fleuve, évidemment, comme le disait Habermas, des extrêmes droites qui construisent là-dessus la ségrégation, la discrimination, la haine de l'autre.
Yannick Jadot, vous parlez avec force, avec emphase de ces sujets-là également au Parlement européen, où vous rendez très régulièrement.
Oui, parce qu'on a toujours ce débat, notamment sur la répartition des flux de réfugiés. Vous savez qu'on a ce débat parce que l'Italie et la Grèce ont beaucoup accueilli ont été aux frontières, sont aux frontières de ces migrants, de ces réfugiés qui arrivent, et que toute une partie de l'Europe s'est lavé les mains de cette responsabilité-là. L'Allemagne en a beaucoup accueilli, et effectivement, comme l'Allemagne s'est retrouvée un peu seule, se retrouve d'un seul coup avec plus que sa part, on va dire, et donc du coup avec des conséquences politiques qui peuvent être parfois difficiles à gérer pour Angela Merkel. Mais en même temps, moi j'ai vu un Emmanuel Macron nous dire à quel point Valls avait été odieux quand il avait été en Allemagne, qu'il fallait qu'on soit dans l'humanité, et on n'a pas l'impression qu'il y a cette volonté de recréer dans le débat public un apaisement, un discours politique responsable autour de ces réfugiés qui nous permettrait aussi de contraindre la Pologne, de contraindre la Hongrie, que nous aidons financièrement à aussi faire sa part.
Vous avez, Yannick Jadot, commencé avec le terme de frustration en matière environnementale. Vous termineriez donc avec le terme de frustration aussi sur ces questions de migration. Votre vie est aujourd'hui de député européen
c'est une
est
vie de combat.
Frustration.
Moi, c'est une vie de combat, mais quand je dis que je suis frustré, parce que quand je vois aussi, je suis sûr qu'on établirait un registre des Françaises et des Français qui veulent accueillir des réfugiés. Eh ben, on aurait les capacités d'accueil. On a des logements, on a des bâtiments qui ne servent à rien, qui sont inoccupés. Plutôt que d'avoir des réfugiés dont on va couper des bouts de pied ou des bouts de main parce qu'ils ont traversé la montagne ou par centaines crèvent en Méditerranée. On peut pas être dans une société qui n'a cessé de s'enrichir ces décennies, abandonner nos classes populaires chez nous et construire au fond ce renoncement de l'abandon de nos classes populaires et la rediriger vers la haine des réfugiés. Ça peut pas être une politique responsable. À la fin, ce sera toujours l'extrême droite qui gagnera.